Vieille Branche, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
L'amour, la passion, la folie, la flamme, l'évanouissement et tout ça, ça ne s'écrit pas dans des lois sociales et morales. C'est plutôt quelque chose qui se fait en dehors et même contre la société et la morale.
Deuxième étage.
Bon, je vous vois tout de suite. Oui, c'est bon.
Deuxième étage.
Pour cet épisode de Vieille Branche, nous sommes arrivés dans un appartement en chantier, celui de l'écrivain Tahar Benjamin, sur le point de déménager. Il part habiter dans un lieu que j'ai très envie de visiter, une résidence d'artistes dans Paris, fermée au public, ça s'appelle La Ruche. Il y a beaucoup d'artistes qui y vivent, qui sont tous locataires et qui, pour la plupart, y restent toute leur vie. Là-bas, il y a une petite maison et un atelier qui attendent Tahar Benjamin pour qu'il se consacre à son autre passion, son second art, la peinture. Car Tahar Benjelloun est écrivain, vous l'avez sans doute déjà lu. Il est multifacette, vous allez le découvrir.
C'est bien ce que je vous ai entendu dire chez Eva Bester. Vous étiez en plein déménagement.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De toute de la vie.
Je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écoutez les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective. C'est un véritable bouclier.
Ah, vieilles branches !
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille Branche. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui je suis dans l'appartement pré-déménagement de Tahar Benjelloun. Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Je crois que vous êtes en train de déménager, ça se voit
oui,
un petit peu.
Oui, ça ne sera plus chez moi dans quelques jours. Et déménager, c'est la pire des épreuves qui puissent arriver, sur le plan évidemment matériel, et même un peu psychologique, parce qu'on se débarrasse de beaucoup de choses, on se rend compte qu'on ramasse énormément d'objets, de livres, de fringues. On les amasse comme si on devait vivre 10 000 ans. Et après, grâce au déménagement, on fait un peu le tri, on jette un peu ou on donne. Moi, j'essaie de faire les deux. Je jette, je donne à ceux qui veulent.
Mais j'ai cru entendre quand même une certaine jubilation dans le fait de vous débarrasser des
choses.
Parce que c'est une épreuve, mais un peu jubilatoire.
Oui, parce que moi, j'ai toujours été pour la légèreté, pour être léger, pour ne pas s'encombrer de beaucoup de choses, ne pas s'encombrer d'objets inutiles. Et on a d'ailleurs la chanson de Alain Souchon, elle est très bien quand il parle sur la consommation, elle est magnifique. Et il dit, bon, on accumule, mais après, qu'est-ce que ça fait ?
Tahar Benjelloun, vous êtes né au Maroc en 1946 ou 47, ou peut-être même 44. Personne n'en sait
rien. Avant les années 50, en tout cas, c'est sûr.
Personne sur Terre.
Et c'est sûr après la guerre.
Voilà, donc ça nous laisse une petite fourchette. Vous êtes parti habiter à Paris en 1971 parce que vous enseignez la philosophie au Maroc. Et puis, à la suite de l'arabisation de l'enseignement de la philosophie, vous êtes venu en France parce que...
En fait, pas uniquement l'arabisation de l'enseignement, c'est qu'on ne devait plus enseigner la philosophie universelle et occidentale, mais enseigner la pensée islamique. Et c'était une façon du pouvoir de l'époque de lutter contre les étudiants opposants ou disons l'esprit critique qu'on enseignait à travers les cours de philosophie.
Voilà, donc vous allez nous en dire plus tout à l'heure, notamment sur ces étudiants opposants. Vous avez suivi ici un doctorat en psychopathologie sociale, et puis vous ne pouviez pas savoir, mais vous écriviez déjà en 1971, que votre livre « Une nuit sacrée » serait récompensé par le Goncourt « L'année de ma naissance à moi » en 1987.
Voilà. Comment voulez-vous qu'on le sache? Aucun écrivain ne peut le savoir, et celui qui s'amuse à écrire pour avoir le Goncourt, il se met le doigt dans l'œil. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe.
Moi, je vous ai lu qu'une petite quinzaine d'années plus tard, avec le racisme expliqué à ma fille, quand j'avais moi-même une petite dizaine d'années. Vous êtes romancier, écrivain, conteur, philosophe et même peintre. Vous êtes un des rares écrivains vivants auxquels la maison d'édition Gallimard a consacré un quarto qui rassemble 11 de vos romans. Et puis vos deux derniers livres, parce que c'est facile de parler de ceux-là, résument peut-être une partie de votre œuvre, puisqu'il y a la philosophie que vous expliquez aux enfants dans l'avant-dernier, donc ce désir de transmettre à l'enfant que vous étiez, et les enfants que vous avez eus peut-être, des clés pour appréhender la vie et sa complexité. Et puis il y a Le miel et l'amertume, le dernier roman où vous racontez comment une famille se brise dans le silence, par le silence, à cause du viol et du suicide de la fille du couple que vous mettez en scène. Pourtant, il y a un ray de lumière qui éclaire cette histoire très sombre. Mais avant de partir dans l'exégèse de votre œuvre, je voulais vous demander comment est-ce que vous aviez vécu cette année qui vient de se terminer, Tahar Ben Jelloun, cette époque étrange et inédite. Cette période que vous-même vous dites perturbée.
Oh ben, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis privé de vie, privé d'échanges, privé de contacts, privé de d'air libre. On est dans une prison chez soi et c'est vrai que le virus est très très dangereux, très virulent et que Il rigole pas et j'ai perdu pas mal d'amis, des amis très importants dans ma vie qui sont morts du Covid et donc j'ai vécu cette année et ça continue d'ailleurs, on n'a pas terminé avec cette saloperie, et j'ai vu ça avec, disons, philosophie, avec sagesse et en même temps avec une certaine appréhension. J'ai fait très attention. J'ai eu le Covid, mais heureusement asymptomatique sans symptômes. Et j'ai été vacciné au début de la vaccination, il y a une semaine ou deux.
Donc ça devrait participer à vous rassurer.
J'attends la deuxième dose pour me sentir un peu plus à l'aise. Mais ce que je comprends pas, c'est effectivement la lenteur de l'administration française pour la vaccination. Et je trouve que la situation n'est pas bien prise en main par le gouvernement actuel.
Pour revenir sur la perte de vos amis, je crois que c'est une chose vraiment fondamentale. L'amitié, pour vous, c'est peut-être un fil conducteur.
C'est quelque chose de fondamental, de très important. J'arrive à un âge, à partir de 70 ans, commence à compter sur le doigt d'une seule main les amis qui restent, les amis qui sont là, les amis qui ont traversé avec vous plusieurs années, plusieurs épreuves. Donc, on se téléphone tous les jours, on se parle, on se tient au courant les uns les autres. Mais on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à manger ensemble, à être ensemble, et ça, c'est assez douloureux.
Vous dites qu'on s'habitue pas à l'absence, on ne s'habitue pas à l'absence d'un ami.
C'est difficile de demander à quelqu'un de se priver de tout ça en même temps, d'un coup, et de faire attention, de vivre dans la menace d'une catastrophe. C'est difficile. C'est difficile pour tout le monde, hein. C'est pas uniquement pour les personnes d'un certain âge.
Et sans vouloir enfoncer le clou, ce chagrin que vous avez vécu, qui est immense cette année, dans une période où on n'a pas pu vivre les deuils correctement, est-ce que ça a été quelque chose en plus qui a affecté ces chagrins et ces deuils?
J'ai pas pu aller au Maroc enterrer mon frère aîné, qui est beaucoup plus âgé que moi, mais je l'aimais beaucoup, donc j'ai pas pu. J'ai perdu un ami très 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 proche que je devais rejoindre le 18 octobre à Tanger. Et c'est au moment où j'ai fait le test pour prendre l'avion, il était positif, donc je suis resté ici. Mais lui était positif, mais malade, il ne le savait pas, et il est mort une semaine après. Donc ça m'a fait un choc terrible, parce que c'est un ami très proche de 40 ans, une quarantaine d'années, qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, et que je devais retrouver, et en fait... j'ai encore sa voix au téléphone, puis elle dit, mais non, il se trompe, refais un autre test, tu verras, tu es négatif. Et en fait, lui était déjà contaminé, mais il ne le savait pas, et en une semaine, il est parti.
Normalement, je demande à mes invités, quand est-ce que vous situez le début de votre vie? Dans votre cas, c'est un petit peu particulier, puisque comme on l'a dit en introduction, vous n'avez pas de date de naissance.
Peu importe, l'enfance, j'ai un très bon souvenir de mon enfance à Fès, dans la vieille ville de Fès. Et puis je pense que j'ai commencé à prendre conscience des choses en arrivant à l'âge de 7-8 ans à Tanger, qui est une ville lumineuse avec l'âge découvert la lumière de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, qui se rejoignent à Tanger. Et je pense que ça peut commencer là, parce que là, j'ai commencé à aller au cinéma. J'ai commencé à m'intéresser aux filles, je me commençais à faire plein de choses. Donc à partir de 10-14 ans, comme ça, j'ai des souvenirs très précis d'une vie assez pleine, assez remplie de lectures, d'écoute de musique. J'écoutais beaucoup de musique chez un ami qui avait lui un électrophone et des disques de vinyle de l'époque. J'écoutais beaucoup de jazz, parfois du classique, et beaucoup de la chanson française de qualité, c'est-à-dire Léo Ferré, Brassens, Jean Ferrat, et Jacques Brel, Barbara, des gens comme ça qui ont donné à la chanson française vraiment ses lettres de noblesse. Mais bon, aujourd'hui j'aime bien Camélia Jordana, qui a une belle voix et qui avance bien.
Il y a quelque chose dans votre enfance, vous dites que vous avez eu une belle enfance. Moi, j'ai relevé, et vous allez me dire, peut-être si j'ai été dans la mauvaise direction, l'impression d'un amour très fort et très protecteur de vos parents, parce que vous racontez qu'ils vous ont enlevé, en tout cas votre père, de l'école coranique, parce que un des professeurs vous avait frappé. Il me semble qu'à cette époque, que ce soit en France, au Maroc, les professeurs qui frappaient les enfants, c'était plutôt monnaie courante. Donc voilà, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là.
Oui, mais c'était... L'école coranique représentait un petit peu comme une maternelle où on laissait les enfants le matin, ils reviennent l'après-midi. Non, on revenait à l'heure du déjeuner, après on repartait. Et c'était un peu pour laisser les parents travailler, pour la mère faire ce qu'il y a à faire à la maison. Mais j'en veux pas du tout à ces maîtres d'école, parce qu'ils étaient des gens traditionnels qui n'avaient pas des notions d'éducation ni rien. Donc donner un petit coup de bâton sur la tête d'un enfant, pour eux, c'est normal. Mais ça a été pour moi l'occasion pour sortir de l'école coranique et aller à une école franco-marocaine. Et c'est pour ça que mon père a dû me vieillir pour que je puisse être accepté à l'école franco-marocaine.
Mais ce qui m'interpellait dans l'histoire, c'était pas tant effectivement la violence qui paraît assez banale des professeurs à cette époque-là, mais la réaction de votre père.
Mais je me souviens aussi d'une autre histoire qui est arrivée à mon frère. J'ai un frère qui a 2 ans de plus que moi, et qui, lui, on a fait toute notre scolarité ensemble. Et un jour, il a été frappé sérieusement par un prof. Vraiment, il lui a donné une gifle terrible. Et je me souviens très, très bien, c'est comme si c'était hier, mon père avait pris un gourdin, il allait le chercher pour lui casser la gueule. Et ça, c'était dans les années 50, hein. Vous voyez, c'était... Et les parents ne supportaient pas qu'on touche à leurs enfants, c'est normal.
Bah, pas tous. Et puis, il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé avant vos 14-15 ans et votre découverte du cinéma et de la lumière. C'est la maladie que vous avez eue petit.
Oui, mais ça, j'étais très, très petit, entre 3 et 5 ans. J'ai des souvenirs d'enfants malades, j'ai des souvenirs des médicaments, des souvenirs d'ennui, de silence. Mais j'étais malade, mais j'avais pas peur de mourir. Mes parents, oui, avaient peur que je meure.
Mais parce vous n'y voyez pas un terreau pour votre imagination, pour votre...
Oui, ça a été le moment de, Ça m'a appris des choses. J'ai développé mon imagination à ce moment-là.
Vous voyiez le ciel depuis...
On regardait le ciel.
Pendant des heures. Vous n'aviez pas vraiment le choix. Et puis, enfant, vous avez découvert rapidement l'existence, sans doute incompréhensible pour vous, mais vous allez me le dire vous-même, du racisme. Vous aviez des cousins noirs. Votre
oui.
Oncle avait
oui,
des
oui,
enfants
oui.
noirs qui dînaient, pas avec vous, mais à la cuisine.
Oui, oui, ils avaient un traitement à part et ça m'avait toujours choqué que mes cousins Germain, le frère de mon père, avait une femme blanche et deux femmes noires. Et ça m'avait choqué. Mais c'était comme ça. Personne ne faisait de commentaires. Moi, ça m'avait choqué. Ça m'a choqué au point où ça m'a poursuivi jusqu'à ce que j'écrive Le mariage du plaisir, qui est un livre qui parle un peu de ce racisme antinois. J'étais sensible au racisme très vite, et pas uniquement à cause des Noirs au Maroc, mais même quand je suis arrivé en France... Avant 71, j'ai visité plusieurs fois la France et j'ai vu comment les immigrés arabes étaient très maltraités par la France. Mais on ne le disait pas, on ne le savait pas.
C'était même pas un sujet. Vous arrivez d'ailleurs en 1971. Je voulais vous demander quelles étaient vos premières impressions de Paris ou de la France en arrivant, même les sons, les bruits, la lumière.
Alors, c'était une ville, Paris était très gris. Les murs étaient noirs, c'était avant que Malraux n'impose... celui qui avait imposé de faire le ravalement des immeubles, je crois. Et j'étais très déçu par Paris, mais en même temps, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est la solitude des gens. Les gens ne se parlaient pas, alors que je vais d'un pays où tout le monde se parle, tout le monde se connaît, etc. Et j'ai petit à petit accepté les choses et j'ai trouvé que dans Paris, il y avait autre chose aussi. Il y avait quand même de temps en temps une belle lumière, il y avait le Louvre, il y avait pas encore le musée Pompidou, mais il y avait des musées, il y avait du cinéma, il y avait du théâtre, etc. Il y avait autre chose.
Et cette arrivée à Paris, elle suit, vous l'avez dit très rapidement pendant notre introduction, mais un épisode de votre vie que vous avez raconté dans La Punition, un livre où vous revenez sur ces 18 mois, 19 mois de prétendu service militaire qui était en fait une sorte de camp de rééducation pour des jeunes étudiants, pour vous qui avez manifesté contre le régime. Cette période, elle vous laisse quoi? Elle vous a laissé quoi?
Ben, c'est une épreuve qui a été, entre guillemets, utile dans la mesure où elle m'a réveillé à moi-même, m'a révélé à moi-même et a réveillé en moi l'envie de m'exprimer, d'écrire. Et j'ai écrit mes premiers textes en cachette dans ce camp disciplinaire. Et en sortant, j'avais un petit paquet de bouts de papier où j'écrivais avec ce que je trouvais, quoi. Des bouts de crayons, des stylos, billes, des choses comme ça. Et j'avais de quoi faire un long poème.
Écriture pour survivre, parce qu'il y a quelques-uns de vos camarades qui n'en sont pas vraiment relevés.
Écriture pour survivre et surtout pour laisser une trace au cas où, parce que c'était une menace qui pesait sur nous, au cas où on serait envoyé sur le front. La frontière algérienne pour faire la guerre à l'Algérie. C'était à l'époque où on parlait beaucoup de ça. Il y avait une animosité entre les deux pays, qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, et une haine de la part des Algériens très forte, et que les Marocains voulaient en découdre. Alors, il y avait un capitaine qui nous dit « Bientôt, on va être en première ligne contre l'ennemi algérien ». Donc, je me dis, si un jour je vais faire la guerre à l'Algérie, contre laquelle j'avais rien, moi, j'avais aucune envie d'aller tuer des Algériens. Je me dis, je vais laisser des traces, je vais laisser des poèmes. Peut-être que quelqu'un va les trouver un jour et qu'on raconte cette histoire. Heureusement, il n'y a pas eu de guerre et je suis sorti avec ces poèmes qui ont été publiés en 68.
Quand Tahar Benjelloun me raconte cette histoire d'enfermement, j'ai pas pu m'empêcher de me souvenir d'un livre qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence. Ça s'appelait Prisonnière de Malika Oufkir, la fille du bourreau de Tahar Benjelloun et des autres étudiants. Malika Oufkir, elle a aussi été enfermée, comme lui, à son tour complètement arbitrairement par le roi Hassan II, quand son père, le général Oufkir, a fomenté un coup d'État contre lui. tout en rappelant que c'est pas du tout la même chose que son histoire, Tahar Ben Jelloun me dit que la trahison du général Oukir était terrible et que c'était un crime de s'en prendre à ses enfants. Trahi par ses amis, c'est encore pire que d'être trahi par ses amours, nous dit-il. Parce qu'en amour, la trahison fait presque partie du programme, alors qu'en amitié, elle détruit un noyau de confiance extrêmement profond.
Dans La Nuit Sacrée, qui est votre, donc votre roman qui a été récompensé par le Goncourt en 87, ça faisait suite à L'Enfant de Sable, qui était un roman qu'on peut lire à part, on n'est pas obligé de lire les deux à la suite, mais les livres qui se font
Il vaut mieux lire l'un après l'autre, c'est mieux.
C'est mieux ? D'abord L'Enfant
Je
de Sable.
Je pense, oui, mais de toute façon, La Nuit Sacrée est assez autonome.
Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir lu L'Enfant de Sable pour comprendre La Nuit Sacrée. L'Enfant de Sable, c'est l'histoire de Ahmed, une jeune fille marocaine que son père fait passer pour un homme, pour un garçon, toute sa vie, parce qu'il n'a pas envie d'avoir le déshonneur de n'avoir eu aucun héritier mâle. Et puis un jour, elle reprend son identité de femme. Et c'est cette fameuse Nuit Sacrée où elle part à la recherche de cette identité de femme, qui est aussi un roman très dur, hein, qui est extrêmement cruel, et où vous dépeignez la condition féminine au Maroc, en tout cas de manière assez, assez lucide ou limpide.
Je pense avoir été un des premiers romanciers français, en tout cas, à avoir traité de la condition de la femme musulmane, marocaine, bien sûr, mais la femme en général, de façon romanesque et fictionnelle. Parce que bien sûr, il y a eu le deuxième sexe, il y a eu Simone de Beauvoir, il y a eu le mouvement féministe qui est arrivé après, etc. Mais franchement, quand j'ai écrit L'Enfant de Sable, j'avais dans l'esprit l'idée de raconter ce que ma mère, ma sœur, ma tante, mes tantes, mes voisines, mes cousines, comment elles... Elles vivaient leurs conditions et ce n'était pas la plus belle des conditions. Donc j'ai raconté ça pour simplement dire que la lutte contre le patriarcat et la lutte pour la libération de la femme, c'est une lutte très 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 longue et qu'elle est peut-être facile en Occident, mais elle est très difficile dans le monde arabo-musulman.
Et c'est pas
jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que c'est pire ou mieux qu'à pour les femmes marocaines, par exemple?
Non, maintenant au Maroc, il y a une libération de cette condition. C'est pas l'idéal, parce qu'il y a beaucoup de droits que la femme n'a pas pu acquérir dans le nouveau statut personnel qui a été remanié sous l'égide du roi Mohamed VI, qui a voulu moderniser un peu le code de statut personnel. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce statut personnel, notamment l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Il manque aussi l'interdiction de la polygamie, qui est toujours autorisée sous beaucoup de conditions, mais autorisée quand même. L'avortement n'est pas autorisé, les relations sexuelles hors mariage sont interdites, ce qui fait qu'aujourd'hui un jeune couple amoureux qui ne sont pas mariés, s'ils vont dans un hôtel, ils doivent prouver qu'ils ont un contrat de mariage pour monter ensemble faire l'amour, et sinon il faut c'est aberrant. Alors ce qui se passe, c'est que tout se fait en cachette, tout se fait contre la loi. Et il y a 2 ans, nous avons été nombreux à signer un manifeste pour dire que nous refusons ce code pénal qui interdit bien sûr les relations sexuelles au mariage. Et il y avait beaucoup de femmes qui ont dit « Nous faisons l'amour en dehors du mariage.
»
Mais ça, bon, ça n'a pas encore été traduit en droit, dans la mesure où le gouvernement marocain est un gouvernement tenu par des islamistes depuis 7-8 ans maintenant. Et ça, eux, ils ne sont jamais passés ça.
Il faudrait sortir de ce régime-là
Il faudrait que les Marocains ne votent plus pour les islamistes. Voilà. Mais encore faut-il qu'ils aillent voter, parce que ces islamistes gagnent grâce à l'abstention.
Et cette position de la femme, vous en avez pris conscience jeune, enfant,
ado? Oui, très jeune, parce que j'ai vu comment... d'abord, il y avait mon oncle qui avait 3 femmes, il y avait un autre oncle qui en avait 2, il y avait ma mère qui devait demander l'autorisation de mon père pour sortir. Je voyais des choses qui étaient pour les Marocains de l'époque, des années 50-60, naturelles. Or, moi, je trouve ça pas naturel qu'une femme n'ait pas sa liberté.
Et vous pensez que ça vient d'où, cette prise de conscience? Enfin, pourquoi vous, qui avez grandi dans cet univers-là, où ces choses n'étaient pas remises en question?
Je crois que c'est ma mère qui m'a passé cette espèce d'instinct de révolte et de rébellion. Elle était révoltée, mais soumise. C'est curieux, mais je sentais chez elle, elle était là. Ouais. Elle n'aimait pas ce qui se passait, mais elle disait rien, mais elle ne pensait pas moins.
Et elle a fait traverser ça.
Elle a traversé, oui, tout ça.
Et vous étiez très proche d'elle, vous parliez ou ça se passait sans...
Oui, moi j'étais très proche de ma mère. Je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et on a beaucoup parlé. Mais elle, y a une pudeur chez nous qui fait qu'on ne parle pas de certaines choses. On ne parle pas de sexualité, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de ces choses-là. Mais on parle par métaphore, par des petites choses comme ça. Et elle ne me confiait pas beaucoup de choses, mais j'ai su pas mal de choses sur sa vie, à elle, que je ne connaissais pas avant.
Pas, en devinant, en comprenant,
non,
en lisant
non.
entre les lignes.
Lorsqu'elle a été assez malade, sa mémoire a un peu vagabondé et de temps en temps, elle lâchait des informations.
Je vous pose toutes ces questions parce que ça, c'est vraiment une partie importante de votre œuvre, la place de la femme, la femme sur votre quarto, par exemple, c'est quasiment, je ne sais pas, un tiers c'est le sujet, un des 3 sujets les plus importants qui revient constamment, d'où mes interrogations. Et puis, vous avez aussi cette faculté d'écrire en tant que femme, en prenant des personnages féminins et en vous mettant à leur place. Je pense à votre livre « Le bonheur conjugal » où vous parlez à votre place et à la place de votre femme. Ouais. D'ailleurs, vous en profitez pour exprimer peut-être des colères que vous ressentez pour vous-même.
Je pense qu'en chacun, il y a une part féminine, forcément. Et puis moi, c'est une question de sensibilité. J'aime la compagnie des femmes, j'aime les femmes, la femme en général, et j'ai des amis femmes, vraiment amis, avec qui je partage beaucoup de choses, avec qui je discute beaucoup, et cette sensibilité m'a été communiquée sans doute par ma mère.
Et sur l'écriture, j'ai relevé des choses très différentes que vous dites à propos de votre urgence d'écrire, ou à propos en tout cas de la nécessité que vous ressentez. Vous dites « on écrit pour sauver notre peau, il faut parfois écrire pour être du côté de la vie ». Et en même temps, vous avez aussi dit, et j'ai relevé ça dans un vieil article 1972 du Monde, « j'écris pour ne plus avoir de visage ».
Oui.
Ça me semble contradictoire, vous allez me dire peut-être que
non. Non, c'est très clair. Quand j'ai dit « j'écris pour ne plus avoir de visage », ça veut dire « je ne voudrais pas encombrer mon écriture par mon image ». Et surtout ne pas faire en sorte que le livre existe par lui-même et qu'il puisse faire son chemin sans que je sois derrière à le pousser, sans que je me mette moi en avant du livre. Or, Guy Debord nous avait bien prévenu dans la Société de spectacle que j'avais lu à cette époque-là, dans les années 70, et Guy Debord, qui était un situationniste, était quand même très lucide sur la société moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il a tout prévu. Et à l'époque, ce qui était le plus déplorable, c'est que les médias mettaient en avant non pas la littérature, mais certains intellectuels, certains écrivains. Et on ne voyait plus le texte, on ne voyait que l'image de celui qui parle. Or, moi, je voulais être un peu à l'écart, mais malheureusement, j'ai dû aussi composer et tomber dans le même piège. Et parce que si aujourd'hui vous ne faites pas des émissions télé, quand vous publiez un livre, eh bien le livre, il est quasi condamné à la solitude. Et ça, c'est malheureusement, maintenant c'est devenu comme ça. Il y a une telle emprise médiatique sur les gens que il n'y a plus une bonne émission littéraire. Donc il n'y a plus apostrophe, il n'y a plus pivot. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émissions du divertissement où on va parler de un petit peu, je dirais pas littérature, mais on parle un petit peu du sujet qu'on a traité. Vous voyez, par exemple, bon, c'est ça, mais c'est déjà pas mal parce qu'en France, il y a quand même, on invite des écrivains à parler de leurs livres. Aux États-Unis d'Amérique, les écrivains ne sont pas du tout considérés. Hein.
Ils le disent tout le temps. Ils disent tout le temps qu'ils adorent venir en France parce qu'on les écoute, alors qu'aux États-Unis...
Bien sûr. C'est différent. Ici, quand même, les écrivains, ils jouissent d'une bonne réputation. Je ne parle pas de tous, mais être écrivain, ça fait bien.
Ça fait bien.
Oui, non, mais en même temps, ce sont les femmes qui lisent. Les hommes préfèrent lire des témoignages, des documents, des livres d'histoire. Mais ça, c'est comme ça, hein. Moi, j'y peux rien. La fiction, c'est féminin.
Et on écrit pour sauver notre peau, alors ? Enfin, vous, en tout cas ?
En tout cas, on écrit parce qu'on a la prétention de vouloir changer un petit peu quelque chose, un tout petit peu, rien, mais il faut rester modeste. Un livre ne change pas une vie, mais il peut apporter un peu de plaisir ou de joie ou de faire passer un bon moment à quelqu'un ou de partager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas quelque chose.
Vous n'avez pas des livres qui vous ont un petit peu changé la vie, vous,
sûr.
En tant que lecteur ?
Oui, bien sûr. Mais il y a des livres que... Écoutez, moi, quand je lis Nietzsche, par exemple, ou Kafka, ou Cioran, ou Jean Genet, pour moi, je fréquente des amis.
Jean Genet, en l'occurrence, c'était presque un ami.
Oui, mais c'est autre chose. Mais par exemple, je ne pense pas que j'aurais pu être un ami de Nietzsche physiquement, parce qu'il est un peu spécial. Et d'ailleurs, tous ces écrivains-là, Orwell, par exemple, je suis en train de relire 1984, et puis ce sont des écrivains qui ont une vie particulière. C'est pas parce qu'ils ont senti des choses, ils ont été traversés par un certain nombre d'informations qu'ils ont reçues par leur sensibilité, par leur intuition, par leur vécu, et qui fait qu'ils veulent transmettre quelque chose, ils veulent dire quelque chose. Et c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Que ce soit Flaubert, Zola, Balzac, Stendhal, ce quatuor, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été les témoins de leur époque. Ils nous ont raconté l'époque. Et évidemment, Madame Bovary, c'est l'exemple typique d'une époque où on découvre que la femme aspire à un choix, à une liberté. Et puis, il y a Proust, mais Proust, c'est... Moi, je ne le lis pas pour ce qu'il raconte, mais pour l'écriture. Proust, c'est une mine inépuisable, stylistique. On plonge dedans, on lit des phrases, et on est enchanté, on est émerveillé. On s'en fout de ce qu'il raconte. L'histoire, c'est pas ça l'important. C'est pas un roman policier, autrement dit. C'est un roman littéraire. Et moi, j'adore lire Proust comme ça. Et d'ailleurs, j'ai participé à une expérience il y a quelques années au musée Beaubourg, qui faisait le thème d'une exposition à l'époque, c'était le temps. Et il avait demandé à une dizaine d'écrivains, dont moi, de lire la recherche. On lisait la recherche à tour de rôle. Chacun lisait 45 minutes, on arrêtait. Je donnais la page à Jean Echenoz, lisait après à Pierre Michon et ainsi de suite. Et on a lu pendant 48 heures, pas 48 heures pleines, on va dire quelques heures le matin, quelques heures l'après-midi. On a lu toute la recherche comme ça, à voix haute.
En entier ?
Hein ?
En entier ?
Pas tout seul.
Non, je sais, mais même.
Oui, bien sûr. Ça a duré 2 jours.
Même 2 jours, ça me paraît pas assez long.
Oui, mais chacun lisait 45 minutes. 45 minutes, ça fait à peu près 60 pages ou 80 pages.
Mais il y avait des grandes pages. Je vais calculer à la fin.
Comment ?
Je vais calculer 60 fois
Ben, je ne sais plus, en tout cas. Et moi, ce qui m'avait intéressé dans cette lecture, c'était le souffle. Le souffle de Proust avait été asthmatique. Et pourtant, il faisait des phrases très très longues. Or, on ne retrouve pas l'asthme dans l'écriture. Or, moi, je pensais qu'un asthmatique va faire des phrases courtes. Or, il y avait des phrases qui faisaient une page et demie. Oh, oui. Et c'était extraordinaire.
Et vous, on retrouve votre souffle, vous croyez, dans votre écriture ? Vous les dites, vous parlez, vous le dites à voix haute ? C'est-à-dire que comme vous avez un côté un peu conteur, on imagine que ce que vous écrivez, c'est
j'aime
aussi
bien,
fait pour être dit.
J'aime bien les phrases sèches, courtes. Et parfois, j'aime bien les phrases longues qui baladent un petit peu le lecteur.
Est-ce que l'écriture a pu vous séparer des gens ? Vous disiez, les écrivains que je lis, parfois, sont des amis dans l'écriture. Ça ne l'aurait pas forcément été dans la vie. Parfois, écrire, ça peut se séparer un petit peu des autres aussi. Vous avez dit dans une interview que réussir une vie conjugale quand on était écrivain, c'était pas évident, voire même c'était presque voué à l'échec. Un mariage entre un écrivain et une personne.
De toute façon, le mariage, en général, c'est pas une... C'est une aventure sociale dont il faut se méfier beaucoup.
Le mariage
parce que, oui, non, mais parce que les gens, enfin l'écrasante majorité des gens, confondent l'amour et le mariage. Or, nos ancêtres, ils ont bien pigé cette histoire, comme quoi le mariage était un arrangement, un contrat social. Il faut des enfants pour avoir une famille, pour avoir un cadre, etc. Il y a de l'amour dedans, pas souvent. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On part de l'amour pour aboutir au mariage. C'est la consécration. De moins en moins, d'ailleurs. Maintenant, les jeunes vivent ensemble, ils se pactent à la limite pour des raisons fiscales. Et puis après... Non. Mais l'amour, la passion, la folie, la flamme... L'évanouissement et tout ça, ça ne s'écrit pas dans des lois sociales et morales. C'est plutôt quelque chose qui se fait en dehors et même contre la société et la morale.
Parce que vous parlez aussi de l'amour passionnel comme de quelque chose dont on entrevoit forcément la fin, même au début.
Toute passion, bien sûr, la passion, elle est là, il n'y a pas de passion éternelle. À moins que ce soit... Que la passion se transforme en une amitié totale. Et je connais, j'ai un couple d'amis qui sont ensemble depuis maintenant 60 ans, je ne sais pas. Et je pense qu'ils sont inséparables dans la mesure où ils ont toujours été ensemble. Et c'est une forme d'amour exceptionnelle, extraordinaire, qui a changé de forme plusieurs fois. Ça arrive, bien sûr. Mais en général, il y a beaucoup de dégâts et beaucoup d'échecs.
Mais ça reste pour vous, l'amour, une inspiration vraiment importante dans votre œuvre aujourd'hui, par exemple dans vos poèmes qui étaient à teneur plutôt révolutionnaire quand vous étiez jeune, ils ont glissé vers l'amour au fur et à mesure.
Oui, aujourd'hui j'écris des poèmes, mais je peux écrire des poèmes, comme j'ai dit l'autre jour chez Eva Bester. Je peux écrire la poésie par amour que si je suis amoureux et si la personne existe. Je ne peux pas écrire comme ça dans le vague.
Vous êtes amoureux ?
Oui, je pense. Je suis amoureux. Alors, mais vous savez, quand on demande ça à quelqu'un, les gens sont choqués. Et moi, je commençais toujours par demander à une femme que je rencontre pour la première fois. Je dis, rassurez-moi, est-ce que vous êtes amoureuse ? Alors, quand elle dit oui, alors ça, on peut discuter. Quand elle dit non, j'ai dit, bon, ben, écoutez, il va falloir que vous y mettiez, parce que l'amour, c'est important. Enfin, on ne peut pas vivre sans amour.
Oui, ce qui est difficile à entendre quand on n'a pas vécu encore l'amour. Et si quelqu'un vous dit, bah, allez, on s'y met maintenant,
madame. Non, c'est pas estimé, mais je veux dire, il y a une part de volonté, il y a une part de... Il faut se donner un peu de largesse et de chance pour vivre les choses, bien sûr. Mais parfois, ça vous tombe sur la tête comme ça, bouf, c'est très rare. Mais aujourd'hui, moi, je vois autour de moi mes enfants, des jeunes, leurs copains et tout ça. C'est des amours brèves. C'est pas des amours traditionnels pour la vie, pour la mort. Non, non, c'est des moments.
Vous trouvez ça bien ? Plus honnête ?
Non, je trouve que... Ce que j'ai dit d'ailleurs à mes enfants, il dit, vous savez, vous allez vivre très grand amour, mais dites-vous que vous allez vivre d'autres grandes amours. C'est-à-dire dans une vie, aujourd'hui le temps a pris une autre dimension, et qu'on peut avoir dans la vie 3-4 grandes histoires d'amour.
J'espère.
Dans une longue vie, je veux dire. Évidemment, c'est normal. Mais bon, mais c'est... Et ce qui est étonnant dans l'amour, c'est comment les sentiments amoureux, qui étaient parfois ravageurs, très forts et tout ça, avec le temps, ils meurent petit à petit, ils deviennent presque fantomatiques, pour ne pas, presque de la cendre après. Et ça, c'est quelque chose qui est injuste et très étonnant.
Et vous ne croyez pas que si, juste avant qu'il y ait de la cendre, s'il reste une braise, c'est rallumable ? Ou il faut laisser mourir les choses ?
Non, c'est indépendamment de nous, ce n'est pas une volonté. Hein.
Vous croyez ?
Mais bien sûr, ce n'est pas, tiens, voilà, je vais enterrer cet amour. Non, le temps passe, on vit autre chose, on rencontre d'autres personnes, et puis on a d'autres épreuves, d'autres expériences, d'autres projets, et puis ça se mélange.
Je vous lis un court extrait d'un poème de Tahar Benjelloun, un poème qui parle de son fils. De lui, on nous a dit « Il ne fera pas les grandes écoles. Il a fait mieux. Telle une route tracée sur le flanc d'une montagne verticale, il a tracé dans sa vie et la nôtre un perpétuel arc-en-ciel, un amour qui dément la brutalité et la bêtise. »
On parlait de votre poésie et puis on parlait un peu d'amour et nécessairement, j'en viens à ce très beau poème que j'ai lu plutôt dans la semaine, en préparant votre interview sur votre fils, Amine,
ah oui,
qui est trisomique. C'est vraiment un magnifique poème qui est trop long pour que je le lise maintenant. Mais voilà, j'avais un peu envie que vous nous parliez de Amine dans un pays où la trisomie est quasiment éradiquée, on va dire le mot.
Non, pas du tout.
Bah, où il en reste 4 en France.
Non, mais écoutez, moi j'ai... J'ai une amie qui n'a même pas 40 ans, qui à 30 ans a eu une fille trisomique. Non, non, ça continue. Cela étant, Amine est une merveille, c'est un don de la bonté, c'est un enfant d'abord qui est autonome. Il travaille, il gagne sa vie, et il est totalement heureux. Et surtout, il est très sportif, il est un champion de natation de France, et il fait beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui m'appelle tous les jours pour me dire « Papa, je t'aime ». Mes enfants, bien sûr, ils m'appellent, mais le « je t'aime » ne vient pas automatiquement. Lui, c'est naturel. Moi, je dis à mes enfants « je t'aime », au papa qui t'aime, etc. Mais c'est très vite, on est rentré dans la... Dans la vie sociale où on n'ose plus dire ces mots-là aujourd'hui. Ça devient dur, hein.
Au fur et à mesure de l'âge, quand on les entend.
Non, c'est un peu l'époque qui est comme ça.
Et Amine, en revanche.
Amine, lui, il s'en fout de l'époque.
C'est peut-être ça le mieux, qu'il s'en fiche de l'époque. Qu'il ne soit pas touché par l'époque.
Non, mais il suit ses sentiments et ses intuitions.
Je voulais vous en parler justement parce que vous avez défendu, sans en faire des tonnes, mais que c'est quand même un combat qui vous tient à cœur, en tout cas le regard sur les enfants handicapés ou sur le handicap de manière générale.
Avec sa mère, on s'est beaucoup battu parce que la société, elle veut cacher les enfants qui ont un handicap. Elle les met dans des institutions où ils régressent tous. Et c'est horrible. Mais nous, on avait la chance avec Amine, il avait une telle force d'intuition que quand il rentrait dans un institut, il disait non, 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 il avait 4-5 ans, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et il sortait très vite. Et ça, on suivait ce qu'il faisait. On ne pouvait pas l'obliger à rester avec, dans une institution qui allait le mettre dans une régression, mentale et physique même.
Et ça a été difficile, je veux dire, de lui faire suivre tout un parcours.
Ça a été lui. D'abord, dans tout Paris, il n'y avait qu'une seule école où il y avait une classe spécialisée pour les handicapés. Et une seule classe, c'était à l'île Saint-Louis. Et la directrice ne voulait pas d'enfants trisomiques chez elle. Ah, c'était une bagarre tout le temps. C'était une lutte quotidienne.
Et ils le disent, les gens, je ne veux pas de ça, ou ils le font?
Ah, mais il y a mille façons de dire non.
Bien sûr.
Non, on a eu des problèmes énormes avec les administrations, l'institution, l'éducation nationale, les sociales. Sociale. Enfin, ça a été horrible.
Et en parlant d'enfants, comment ça vous est venu, les œuvres qui sont plus tournées sur les enfants? Le racisme expliqué à ma fille, puis vous en avez le terrorisme expliqué aux enfants, puis la philosophie expliquée aux enfants. Enfin, ça, c'est votre dernier. C'est venu d'un éditeur ou c'est vous qui avez...
Non, c'est moi. C'est moi, à partir du moment... Quand on a des enfants, ils vous posent des questions, forcément. Et c'était, je le raconte dans le livre sur le racisme, ma fille, ma compagnie, ma fille aînée, elle avait 7 ans, 7 ou 8 ans, je ne sais plus, et elle entendait des slogans, elle me dit, papa, c'est quoi le racisme, je ne comprends pas, pourquoi, etc. Alors je lui dis, écoute, on va travailler. Et avec sa copine, on me posait des questions. Après, moi, j'ai fait le livre. Mais pour moi, c'était des questions que mes enfants me posaient.
Vraiment. Ouais. Et vous êtes arrivé en France, vous étiez déjà installé dans un milieu universitaire. Au Maroc, vous étiez déjà dans un certain milieu social. Est-ce que vous avez vécu le racisme en arrivant en France? Est-ce que vous avez...
Moi, je n'ai pas été victime de racisme dans un sens où je pouvais tout à fait passer pour... une peau blanche d'occidentale, c'est pas ça la question. Mais il y a des formes insidieuses, hypocrites, mais on le sait.
Je vous pose la question parce que vous avez aussi pas mal œuvré sur la question des banlieues. Vous aviez Banlieuscopie, un projet que vous avez porté, et je vous ai entendu dire plusieurs fois dernièrement que c'est quelque chose dans lequel vous aviez un peu perdu espoir, qu'on avait tellement laissé des quartiers à l'abandon pendant 30 ans, 50
ans. On avait
prévu
tout ce qui arrive aujourd'hui. Parce que c'était des sociologues qui allaient sur le terrain, qui enquêtaient, et on faisait des rapports pour Mme Aubry, qui était au ministère du Travail, et de la Famille.
Et on vous disait, oui, c'est super. À l'époque, on vous disait, oui, c'est super, mais on ne fait rien. Et puis,
oui, mais ça n'a abouti à rien. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'on disait.
Mais ça, c'est pas quelque chose...
Ils n'ont pas tenu compte de l'arrivée de l'islamisme, ils n'ont pas tenu compte du terrorisme, ils n'ont pas tenu compte de l'explosion de la population d'Afrique qui arrivait et qui avait d'autres habitudes, d'autres traditions. On a tout noté, on a tout décrit et tout étudié.
C'est une douleur, ça, d'avoir réussi à faire passer un message
On faisait des rapports qu'on donnait au ministère, parce que c'était financé par les ministères de la Famille.
Mais je vous demande si c'est douloureux de ne pas réussir à avoir fait passer...
Après, on a été découragés, on a arrêté.
Oui. On a arrêté, désespoir, j'étais président.
Mais les sociologues, ils en avaient marre à la fin.
Et aujourd'hui, vous pensez quoi?
Aujourd'hui, j'avoue que je ne comprends pas grand-chose ce qui se passe dans les banlieues. Je suis en contact avec quelques éléments qui me racontent des choses horribles. Sur l'évolution, dans le mauvais sens du terme, des banlieues. Et je pense que la délinquance, la drogue, l'argent facile, c'est beaucoup développé dans ces banlieues-là.
Ce ne serait pas une solution, la dépénalisation du cannabis? La dépénalisation du cannabis, ce ne serait pas un début de solution?
Ce serait un bon coup à faire contre les dealers, oui. Bien sûr. C'est pas une drogue terrible, mais je voudrais dire quand même un mot sur le dernier roman, Le Mieux et l'Amertume.
C'est vrai que j'ai eu l'impression, en lisant votre livre, qu'il arrivait quand même après beaucoup de propos tenus ces dernières années sur la place du silence et sur sur la violence du silence. Et dans votre livre, c'est la violence du silence aussi qui tue cette famille. Alors, je me demandais si c'était un sujet qui était apparu comme ça, non, aussi ça fait... avec l'actualité.
Non, j'ai travaillé depuis 2 ans, parce que d'abord, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché personnellement, dans la mesure où une de mes nièces avait été abusée par ce pédocriminel. Et j'ai mélangé beaucoup d'histoires, parce qu'il y avait plusieurs... C'est un fait divers qu'il y a eu beaucoup d'histoires à Tanger dans les années 70. Et donc, je voulais un petit peu raconter ça pour montrer que le pédocriminel, il ne fait pas qu'une seule victime. En fait, la première victime, c'est la fille ou l'enfant, enfin l'enfant qu'il abuse. Et après, il y a toute la famille qui va être détruite, surtout après un suicide. Et c'est pour ça que le roman commence sur le couple qui vieillit mal, dans la haine, dans la culpabilité et dans le désordre. Parce qu'ils ont été démolis, détruits par ce salopard. Et ce salopard va mourir dans son lit, impunément. Et on va lui faire des funérailles magnifiques. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, c'est de montrer que finalement la lutte du bien contre le mal ne réussit pas toujours. Et c'est le mal parfois qui l'emporte.
Et placer cette histoire au Maroc, ça avait plus de sens pour vous que de la
Parce qu'au Maroc, il y a la honte et le secret. On ne dit pas ce genre de choses, on ne le dénonce pas. Parce que la honte est telle qu'on se la boucle et on vit dans le silence. Comme ici d'ailleurs. Mais ici qu'il y a, maintenant il y a de plus en plus d'associations qui militent et qui gueulent. Au Maroc aussi, il y a des associations depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années, qui militent contre la pédophilie au Maroc.
J'ai 2 dernières questions, Tahar Benjelloun. Est-ce que c'était mieux avant? C'est une question très large que vous prenez comme...
Non, je ne suis pas dans ces ordres, non. Ni mieux, ni pire. La vie, elle avance, nous avançons avec elle. Et le mieux peut être demain, peut être après-demain. Je ne suis pas dans cette espèce de nostalgie à regarder en arrière. Non, il ne faut pas regarder en arrière. Il faut continuer de marcher en avant.
Vous aimez pas la nostalgie, hein, d'ailleurs, ça revient souvent. Et est-ce que vous avez peur de la mort, Tahar Benjelloun ?
J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la dépravation, la dégradation que j'ai vécue avec ma mère. Pourquoi la pauvre, pendant 3 ans, elle a souffert inutilement ? C'est une souffrance. Et chaque jour qui avançait, elle perdait un peu de son autonomie, de son esprit. La mort, c'est pas le cœur qui s'arrête, c'est la maladie. Et c'est ce que j'aime bien chez Duras, c'est la maladie de la mort. C'est-à-dire que la mort commence à partir du moment où on n'est plus indépendant, on est dépendant des autres pour aller faire sa toilette, ou pour se lever, ou pour manger. Là, ce n'est plus possible. Et la société marocaine, comme la société française, ne permet pas qu'on abrège des souffrances de ceux, ça c'est, on va, il y aura pas de miracle. Quelqu'un qui passe dans un EHPAD, moi j'ai vu des personnes dans des EHPAD dans un état de dégradation totale. Il y aura pas de miracle. Il faut pas se lever et courir et jouer au tennis. Sinon c'est fini.
Il y a pas d'espoir, c'est ça que vous...
Non, mais en même temps on peut pas abréger la vie des gens s'ils ne le demandaient pas eux-mêmes. Et puis un ami médecin qui n'est plus ce monde me disait une chose terrible, me dit, tu sais, quand on discute comme ça autour d'un verre, on discute comme ça de la vie, de la mort, on est comme ça, on est gay, on dit oui, moi je suis, mais quand ça arrive, quand on a toujours l'espoir qu'un jour on va guérir, on va se lever, on va courir. Et c'est ça ce qui est malheureusement ce que raconte très bien d'ailleurs Bernard Pivot dans son dernier livre, Mais la vie continue. C'est un très bon livre, il faut le lire, parce que il dit des choses, il les a vécues, c'est un grand ami, Bernard. Et quand il a décidé de quitter l'Académie Goncourt, ça a été pour nous un choc. Mais en même temps, il nous a dit, il vaut mieux que je parte alors que je suis en bonne santé que de partir dans un délabrement tel que je ne serai plus là pour vous parler.
Mais c'est vrai qu'on dit avant, moi si je suis dépendant, je voudrais que ça s'arrête, etc. Mais que quand on a des proches dans cette situation-là, on pense plus forcément exactement comme ça. Vous voudriez prendre la décision à l'avance pour contrer le futur vous?
Ah, moi j'ai un ami qui a qui a déjà mis une balle dans son revolver. Hein. Je rigole avec lui, mais il est sérieux. Il dit, moi, j'irai pas dans une EHPAD.
Un grand merci à Tahar Benjelloun de nous avoir accueillis chez lui.
Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Musset, mixage Laurie Galgani, réalisation, coordination et prise de son Marine Roux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.